Vous écoutez
RMC.
RMC. 7h-8h.
Votre maison. François Sorel.
Christian Pessé.
Et nous voilà de retour, c'est le week-end des experts sur RMC, vous le savez, après le Jardin et Patrick Miolan, avant de retrouver tout à l'heure le docteur Christian Ekia et un coach sportif qui sera avec nous pour nous donner un maximum de conseils pour bien s'entraîner bien pendant ses vacances. Et avant de retrouver la vie numérique avec Raphaël Grabi, c'est la maison, vous le savez maintenant, et c'est avec Christian PC. Bonjour Christian.
Eh bien bonjour mon cher François, vous allez bien?
Bah écoutez, ça va très bien. En ce 8 août, nous allons chauffer l'eau au cas où on n'en aurait pas besoin.
Oui, on peut aussi prendre une douche froide, hein. C'est possible.
Ça c'est certain.
Là, il n'y a pas besoin de chauffe-eau.
Mais bien sûr.
On n'a même pas besoin de passer par la pompe. La pompe à chaleur pour la rafraîchir. Donc, on vous laisse libre. Mais enfin, c'est quand même pas mal d'avoir un peu d'eau chaude, notamment pour prendre un bain.
Bien sûr. Et peut-être pour préparer l'hiver. C'est peut-être maintenant qu'il faut peut-être y songer. Oui. Hein. Quelle solution pour chauffer l'eau sanitaire pour plus de confort et moins de dépenses? On en parlera avec vous, Christian. Et notre invité, Antoine Dubost, de chez Ariston.
Bonjour.
Bonjour, on vous retrouve tout à l'heure monsieur, merci en tout cas. Christian, on retrouvera aussi votre coup de cœur. Vous êtes pour le bilan des subventions distribuées par l'ANA?
Ah bah oui, pour une fois, je râle suffisamment contre l'ANA à longueur d'année.
Vous donc, râlez
jamais. Moi, non, jamais. Mais donc là, bah, faut quand même donner un coup de chapeau. Il y a eu quand même beaucoup d'argent de distribuer et il va y en avoir encore plus. Donc l'ANA a bien fait son boulot.
Parfait, ce sera votre coup de cœur tout à l'heure. Et puis je vous rappelle qu'à tout moment, vous pouvez vous poser vos questions maison au 3216, l'appli RMC Direct Studio. Notre conseil de l'expert, on va s'intéresser au volet tout à l'heure.
Eh oui, vous ne l'avez pas volé. Hein.
Oh non, vous n'allez pas me faire ça, non. Christian. Vous, un intellectuel, vous ne pouvez pas me sortir une blague comme ça.
Je ne peux pas m'empêcher, lorsqu'elle est facile, de la faire. Généralement, c'est les meilleurs en plus.
Évidemment, bien sûr. Dans un instant, donc, le conseil de l'expert. Quel volet pour votre maison avec Christian? Mais pour débuter ce rendez-vous maison, eh bien, vos questions. Et c'est Samir qu'on accueille tout de suite. Bonjour Samir.
Bonjour Samir. Christian, bonjour François, bonjour messieurs.
Bonjour Samir et bienvenue sur RMC.
C'est gentil, merci beaucoup, c'est gentil.
Vous nous appelez d'où, Samir?
Je vous appelle de Vincennes.
D'accord.
Dans le Val-de-Marne.
Très bien. Et Christian PC vous écoute avec attention.
Allez-y. Alors, c'est une question pour Christian, pour le docteur. J'ai une grosse problématique.
Le docteur Christian?
Oui. C'est comme ça que je l'appelle. Je l'écoute depuis plus de 10 ans,
c'est comme ça que je l'appelle. Moi, je ne me ferai pas opérer avec sa perceuse, hein, je vous le dis tout de suite. Mais bon, après, c'est une question de... Voilà.
Oh là, la scie circulaire, c'est plus radical.
C'est vrai, c'est plus radical.
Il commence. J'ai une problématique en fait au niveau de la chaleur dans mon appartement. J'ai un puits de lumière et c'est vrai que quand il fait chaud, notamment quand le soleil il tape au niveau de ce puits de lumière, bah tout de suite au niveau de l'appartement il fait très très chaud. Donc j'ai pas de volet aujourd'hui, j'ai rien aujourd'hui qui me permet de pouvoir bloquer les UV. Et j'ai différentes possibilités pour pouvoir trouver une solution. Alors, on m'a parlé d'un store extérieur, on m'a parlé d'un store intérieur, on m'a parlé d'un film qu'il faudrait mettre sur cette mini véranda qui fait 4 mètres sur 1 mètre. Mais bon, j'entends tout et n'importe quoi. Je me suis dit que j'allais vous appeler.
Bon,
et pour moi, là, j'allais avoir la bonne réponse.
Alors, attendez, je ne comprends pas bien votre affaire de puits de lumière. C'est quoi? C'est un patio intérieur? C'est quoi?
Oui, exactement. Oui, voilà, dans la salle à manger, en fait, on a un puits de lumière. Donc, ils ont 4 mètres sur 1 mètre sur le plafond, donc c'est plutôt sympa en termes de visibilité et c'est plutôt sympa en termes de lumière. Mais par contre, quand le soleil il tape, là, c'est une autre histoire.
Ouais, mais alors, il s'ouvre votre machin là?
Pas du tout, pas du tout, il s'ouvre pas du tout, j'ai aucun accès direct dessus.
Donc, vous n'avez pas passé sur le toit, c'est ça?
Je pourrais éventuellement, mais je suis pas assez souple.
Alors, on va éliminer les stores extérieurs, hein, pour commencer, puisque évidemment, c'est pas accessible. En plus, c'est un toit plat, j'imagine.
Non, c'est incliné. Pourquoi vous voulez annuler les stores extérieurs? Je pensais que c'était la meilleure solution, au contraire.
Ben, attendez, parce que vous savez, c'est difficile de se rendre compte. Vous avez votre pièce sous les yeux. Moi, un balcon avec une terrasse, je comprends. Là, je comprends que c'est une verrière, en quelque sorte.
Hein, c'est exactement ça. C'est une mini-verrière, en fait.
Avec un seul pan.
Exactement.
Voilà, bon, on y est. Donc, moi, je pense que, alors, à ce niveau-là, alors, je veux dire, comment on faisait autrefois dans les ateliers, notamment, qui étaient souvent avec ce type de configuration, Eh bien, on passait du blanc d'Espagne à partir du mois de mai, juin, quand il commençait à faire chaud. On passait du blanc d'Espagne à l'intérieur des de la vitre. Vous pouvez y accéder. C'est pas à 12 mètres votre truc.
Non, c'est à 3 mètres. C'est pas
donc
c'est pas
donc ça c'est la première des solutions, la plus économique et la plus simple, hein. Puisque vous savez ce que c'est que le blanc d'Espagne, c'est une espèce de poudre blanche qu'on va la délayer dans de l'eau et puis on va la passer tout bêtement avec un pinceau large, avec une brosse comme disent les pros, et on va donc garder la luminosité, mais on va casser on va renvoyer les UV et on va donc avoir une meilleure fraîcheur à l'intérieur. Ça, c'est la première des solutions. Moi, je serais vous, je la tenterai, parce qu'elle va vous coûter, vous allez dans le sous-sol du BHV, vous demandez du blanc d'Espagne, ça va vous coûter 5,50 € et vous pouvez toujours l'essayer. Ensuite, ça s'enlève tout simplement en passant un chiffon. Donc, il y a aucun souci sur le produit. Alors sinon, après, effectivement, on entre dans la catégorie des stores. Donc, ça veut dire qu'il faudrait que vous mettiez des stores façon fenêtre de toit. Alors, je sais pas quelle largeur votre verrière, là.
4 mètres sur 1 mètre.
4 mètres.
Donc, c'est pas très grand.
4 mètres, c'est la hauteur ou c'est la largeur?
C'est la largeur. La largeur.
D'accord. Ouais. Oui, ça vaut mieux, hein, mais ça pourrait exister, hein, des fois, des ateliers d'artistes. Donc, là, ça veut dire qu'il faut que vous mettiez plusieurs stores intérieurs. Je vous dis peut-être, allez voir si vous pourriez utiliser, mais il va falloir faire peut-être. Là, c'est pas très simple, je réfléchis en même temps, parce que ça veut dire qu'il va falloir mettre des tasseaux, mettons tous les mètres, pour que vous puissiez accrocher un store qui va coulisser dessus. Hein. Donc c'est la deuxième solution. La troisième, c'est un vélum. Alors c'est carrément là, c'est un store souple, on va dire, c'est une sorte de rideau. Vous allez le prendre blanc aussi, mais il en existe aussi des athermiques, comme on dit, c'est-à-dire qui repoussent la chaleur proprement dit. Bon, d'accord. l'histoire des films de vitrage. Bon, je pense que c'est pas mal. Moi, je trouve pour occulter, faire par exemple un miroir sans teint, pour mettre occulter la visibilité avec quelque chose qui ressemble donc à un verre dépoli. Pour le thermique, je veux dire, j'ai lu ça depuis très longtemps. J'en ai jamais utilisé moi-même, mais pourquoi pas. Mais avant, ça coûte assez cher, hein, puis c'est difficile à plaquer, surtout sur une largeur de 4 mètres. Moi, je commençais donc par le blanc d'Espagne ou blanc de Meudon, hein, c'est la même chose. Et vous allez voir que ça va déjà changer la vie.
Et je trouve ça dans tous les commerces, enfin,
tout ce qu'il y a d'adrerie. Mais je dis, allez, je veux pas faire de la pub spécialement, mais allez au sous-sol du BHV, vous allez trouver rue de Rivoli, vous allez trouver ça puisque vous êtes pas loin. Ou sinon droguerie du coin. Voilà.
D'accord. Ok.
Voilà, Samir.
Ok. Bon, merci en tout cas pour vos réponses, c'est super sympa.
Bon, voilà, la réponse du docteur vous a plu. Ça va.
Comme d'habitude, merci beaucoup docteur et bon week-end à vous.
Merci.
Allez, bon week-end. Au
merci, week-end, Samir. Au revoir. Alors, vous êtes un docteur maintenant.
Maintenant, je suis un docteur.
Docteur maison. Ouais. C'est pas mal. Si tout comme Samir, vous voulez joindre Christian PC, le 3216, la Pierre MC Direct Studio, vous nous laissez votre message avec votre numéro de téléphone, bien sûr. Et maintenant, le conseil béton de Christian.
RMC, votre maison.
Le conseil béton.
Béton.
De Christian PC.
Christian,
oui.
Vous êtes le docteur volé.
Voilà, jeune docteur, volé aujourd'hui. Et sans boule. Hein. C'est
boule. Eh bien, bien sûr.
Alors, on va parler de volets. Bah, parce que toutes les maisons ont besoin de volets pour occulter la lumière ou la filtrer. Et aussi pour la sécurité, au même titre finalement qu'une porte d'entrée. Alors, ça concerne évidemment les fenêtres, mais aussi les portes-fenêtres qui, elles aussi, reçoivent des volets. Alors, en général, ce sont des volets battants, à un ou deux battants. Alors, c'est constitué soit d'un panneau complètement occultant, soit de persiennes, on va dire, hein, de lames légèrement inclinées, soit des deux. Donc, parce qu'on peut avoir la partie basse qui est occultante complètement et la partie haute qui est donc avec ces lames, on appelle ça donc des volets persiennées, puisque ça ressemble donc à des persiennes. Les lames, elles sont donc inclinées vers l'extérieur pour permettre d'une part le filtrage de du jour, mais aussi inclinées pour évacuer l'eau lorsqu'il pleut sur le volet. Alors, il y a un cas particulier qui est très sympa, ce sont les volets à la niçoise. On le trouve aussi en Corse, vous connaissez bien ça. Ce sont des volets qui sont à la fois persiennés sur la partie supérieure et qui, en dessous, ont un ou deux petits volets qui sont articulés, cette fois horizontalement, et
qui peuvent s'ouvrir.
Et qui peuvent s'ouvrir. Mm-hmm. C'est très sympa. On voit comme ça, dans son étage notamment, on voit la rue. C'est assez sympa. C'est vraiment la région niçoise et la Corse qui bénéficient de ce type de volets. Alors, les volets, ils sont suspendus. Ils sont suspendus et articulés en deux ou trois points. D'un côté, vous avez une penture et de l'autre côté, vous avez un gond. Il existe aussi, il faut le dire, des volets coulissants, mais c'est peu pratique, moi je trouve. Enfin, c'est pratique parce qu'il n'y a pas besoin de les ouvrir, il n'y a pas besoin de se pencher, mais je trouve ça assez moche quand c'est fermé. Bon, enfin, c'est une question de goût. Alors, évidemment, les volets, ils vont différer essentiellement par leurs matériaux. Classiquement, ils sont en bois, ils sont en résineux, ils sont en feuillus, ils sont en bois exotique. Les panneaux sont constitués de lames qui sont assemblées on appelle ça embrèvement, c'est-à-dire rainure et languette, et ils sont réunis justement par la penture qui permet d'articuler le volet. On a aussi généralement ce qu'on appelle une écharpe, c'est-à-dire une barre transversale, puis deux barres horizontale ça ressemble, c'est le Z, vous savez, le fameux Z, oui. des volets que l'on connaît, c'est surtout les volets un peu rustiques. Alors dans les matériaux, il y a quoi? Il y a aussi du PVC avec ou sans, mais moi je préfère avec une armature métallique intérieure. Il y a de l'alu. On dit aujourd'hui que c'est le top parce qu'on a vraiment des couleurs qui tiennent très bien, qui sont très très sympas. Et puis on peut mettre à l'intérieur de la mousse de polyuréthane, ce qui les rend beaucoup plus isolants. On a enfin des volets aujourd'hui en résine. C'est de la résine renforcée de fibres de verre. Ça imite parfaitement le bois. Il y a pas mal de coloris aussi. Attention seulement, si c'est pas de la très bonne qualité, sur un plan dimensionnel, ça peut jouer. Alors c'est embêtant s'il y a beaucoup de soleil, par exemple. Et surtout si les volets sont sombres. Eh bien, vous allez avoir un petit jeu. Alors, quand ils sont fermés, vous pouvez plus les ouvrir. Et quand ils sont ouverts, vous pouvez plus les fermer. Bon, ça n'est pas surtout ces types de volets. Moi, je trouve qu'il y a quand même là des matériaux qui peuvent être plus simples pour faire des volets. Bon, l'entretien des volets bois, c'est la galère parce qu'il faut les vernir, les lazurer ou les peindre. Faut faire ça tous les deux ou trois ans.
Gilles, notre producteur parle de Karcher. Voilà, au Karcher ou pas?
Le Karcher sur de la peinture, moi, j'aime pas trop parce que.
Surtout si on les enlève pas et qu'on fait le Karcher dans le salon.
Non, mais si on a des volets, je l'ai dit d'ailleurs dans une émission il y a pas longtemps, si on a des volets en bois et qu'on veut vraiment les repeindre et qu'ils soient nickel, on décroche ces volets, on les confie à une entreprise de sablage et on vous ramène ça comme si c'était du bois.
Quitte à ce qu'on les repeigne nous. Après,
bien sûr,
voilà,
bien sûr,
c'est ça. Parce que eux vont les décaper.
Ils vont complètement les décaper, mais c'est dingue parce que ça va poncer le bois en même temps. C'est vraiment la meilleure des solutions. Le Karcher, sur le PVC, s'il y a pas de souci. Même sur l'alu, faut faire un peu plus attention parce que il y a une couche de peinture qui est dessus, qui est complètement cuite, on va dire.
Et puis rappelons à Gilles qu'on dit nettoyeur haute pression.
Oui, oui.
D'habitude, vous faites la réflexion, là, vous l'avez... Vous...
Ah bah, je laissais la lettre commandée pour vous.
Ah, d'accord.
Vous savez bien que les grandes marques sont très attentives à ne pas galvauder leurs marques. C'est ce qui est arrivé à Frigidaire. Tout le monde appelle un frigo, un réfrigérateur, tout le monde a appelé ça un frigidaire. Résultat, la marque est morte.
Oui, donc, cela dit, quelle reconnaissance aussi. C'est
aussi,
formidable.
Aussi, hein, oui.
Très bien. Vous avez terminé sur les volets?
Mais oui, j'ai terminé sur les volets, moins que vous ayez des questions.
Non, mais je sais pas. Des questions, il y en a pas mal. Après, il y a tout ce qui est volet électrique et tout ça, mais ça, c'est une autre.
Volet roulant, je vous la ferai une prochaine fois, si vous voulez bien, parce que pour le même prix, je vais quand même pas vous faire les volets bois, les volets alu.
Après, moi, la question que je me pose, c'est que, évidemment, dans les immeubles, quand on doit changer de volet, il faut avertir la copropriété.
C'est bien que vous me posiez cette question, parce que d'une part, dans une copropriété, évidemment, évidemment, il va falloir que les volets restent de la même couleur pour l'ensemble, du même matériau, etc.
Alors, couleur, même matériau.
Même matériau.
Est-ce que je peux passer au PVC, par exemple?
Si c'est complètement, alors là, c'est toutes les questions d'aspect. Si c'est complètement de la même couleur que les autres, normalement, on peut rien vous dire. Mais en général, on vous impose cela. Sachez que même en maison individuelle, vous n'avez normalement pas le droit de changer radicalement la couleur de vos volets. Ça pourrait aller jusqu'à la déclaration préalable
de travaux. Prison.
Non, mais même peut-être, on a vu des cas où un permis de construire avait été exigé parce qu'il y avait eu un changement d'aspect radical.
Ah bon?
Et puis, attention, vous avez aussi dans certaines communes des couleurs interdites. Il y a un code de couleur, par exemple dans des cités médiévales, on parlait tout de suite de la Corse ou de la Provence, eh bien on va pas vous laisser mettre peut-être un volet vert fuchsia, vert fuchsia d'ailleurs ça n'existe pas, c'est
si rose vert fuchsia,
rose fuchsia,
complètement daltonien,
rose fuchsia, et donc voilà, donc il faut aussi se renseigner auprès de la mairie lorsqu'on veut changer radicalement la couleur de ses volets.
Très bien, Christian, on va revenir dans un instant. La météo arrive. Et après la météo, quelle solution pour chauffer l'eau sanitaire pour plus de confort et moins de dépenses? On en parle avec notre invité. On va tout simplement évoquer toutes les solutions disponibles pour avoir de l'eau chaude à la maison. Vous avez des questions? 32-16, l'appli RMC Direct Studio. A tout de suite donc.
RMC, 7h-8h, votre maison, François Sorel,
Christian PC.
Nous voilà de retour, le week-end des experts, la maison, Christian Pesset.
Oui, il est toujours là, Sorel.
On sera là tout l'été.
Oui,
bien sûr.
Bien sûr.
Voilà, vous le savez, votre rendez-vous week-end des experts tout au long de cet été avec le jardin, la maison, tout à l'heure la forme, la santé, avec Christian Requia et puis Raphaël Grabli, la vie numérique. Et puis demain, 3 heures d'automobile. Là encore, tout ça est là, tout au long de l'été, les 3 heures d'auto avec Jean-Luc Moreau. Christian,
oui.
Quelle solution pour chauffer l'eau à la maison pour plus de confort et moins de dépenses?
Voilà,
parce que c'est vrai que si on peut en plus faire des économies d'électricité ou d'énergie, c'est pas mal.
C'est le but en ce moment. Alors on va parler d'ECS, eau chaude sanitaire, pour les professionnels.
OCS.
ECS.
Ah pardon, parce que OCS non, c'est une chaîne de télé, c'est pour ça que je ne comprenais pas.
Non. Donc en cette saison, certes l'eau chaude n'est peut-être pas ce qu'on recherche forcément, mais on sait que malgré tout, il faut s'intéresser à cela, parce que d'abord l'hiver va arriver, mais surtout parce qu'on prend beaucoup de douches. On prend beaucoup plus de douches en été et on prend pas des douches froides. Oui,
espérons que vous preniez beaucoup de douches.
Alors nous sommes avec Antoine Dubost. Bonjour.
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 Vous êtes spécialiste chez Ariston, donc des questions de chauffe-eau. Ariston, c'est quoi? C'est une marque à l'origine, c'est italienne.
C'est une marque italienne, voilà, qui fête ses 90 ans aujourd'hui.
Ah oui.
Et qui est international, on est implanté un peu partout dans le monde.
Très bien. Donc, on va parler ensemble globalement de chauffe-eau, on va dire, mais on sait qu'il n'y a pas que le chauffe-eau pour chauffer l'eau de sanitaire. Alors, est-ce que pour commencer, est-ce qu'on pourrait faire un petit état des lieux? On produit de l'eau chaude comment, avec quoi?
Alors, il y a quatre moyens principaux pour dire l'eau chaude sanitaire. D'abord, le gaz, avec la chaudière. Classique, standard. Il y a aussi des chauffe-eau gaz qui peuvent.
Et le fioul aussi, si on a une chaudière.
Alors, le fioul, c'est ce que j'allais dire à la fin, mais le fioul tend à disparaître.
Oui.
Donc, qui est remplacé par des chaudières à condensation, donc avec le gaz.
D'accord.
Il y a aussi des chauffe-eau gaz qui peuvent être accumulation ou en instantané. Après, il y a le moyen par l'électricité, avec le chauffe-eau électrique classique. Et aussi les énergies renouvelables, avec le chauffe-eau, ce qu'on appelle thermodynamique, la pompe à chaleur et les chauffe-eau solaires.
Voilà. Donc là, on a à peu près la gamme. Le plus répandu, c'est quoi aujourd'hui? Ça reste ce qu'on appelait le Cumulus, d'une marque bien connue, mais c'est
le chauffe-eau électrique classique qu'on peut trouver dans les appartements ou dans les maisons individuelles, avec la chaudière aussi. Ce sont les deux gros moyens pour chauffer l'eau chaude sanitaire aujourd'hui.
D'accord. Le fameux Cumulus, c'est quoi? Donc c'est une cuve généralement cylindrique.
Oui, c'est ça.
Assez conséquente.
C'est une cuve cylindrique, alors ça dépend après des litrages, ça peut aller du 50 litres au 300 litres, ça peut être fixé à un mur, ça peut être posé au sol, ça peut être mis en horizontal, fixé à un mur.
D'accord. Alors là, on a une situation d'accumulation, c'est-à-dire qu'on chauffe l'eau, et elle est gardée à température dans une cuve, c'est ça?
Exactement, c'est une résistance qui chauffe l'eau, qui est voilà. gardée à température et après qui sort par la sortie d'eau chaude et qui va jusque dans la baignoire, dans les éviers, etc.
D'accord. Alors, résistance, alors on entend parler de résistance stéatite, plongeante... Vous pouvez faire un petit, parce que là, c'est pareil, on s'y paume, hein.
Alors, il y a deux grands types de résistance. Oui. La résistance, tout d'abord, thermoplongée. C'est comme une bouilloire, hein. Vous pouvez regarder dans votre bouilloire, vous avez une résistance qui va chauffer l'eau.
Ah, la même chose.
Là, c'est la même chose en plus gros. C'est une oui. résistance qui est directement trempée dans l'eau, qui va chauffer, et donc qui va chauffer l'eau.
Et donc, qui s'entartre régulièrement.
Donc, il peut s'entartrer, c'est pour ça qu'on préconise des entretiens si l'eau est calcaire. Ça consiste en tous les deux ans, retirer la résistance, gratter, enlever le calcaire, puis la remettre. Ensuite, il y a la résistance stéatite. Là, c'est la résistance, c'est pareil, sauf qu'elle est dans un fourreau. Elle est protégée, donc elle n'est pas directement au contact de l'eau. Vous aurez un temps de chauffe un petit peu plus long.
Ah oui, c'est ça.
Vous aurez un temps de chauffe plus long, mais la résistance sera protégée.
Oui, mais est-ce que ça ne consomme pas plus du coup parce que il y a une enveloppe et qu'il faut aussi chauffer l'enveloppe?
Non, concrètement, ça consomme la même chose. Les deux consomment la même chose, justement, comme ça consomme la même chose. Si vous voulez, la résistance statique va mettre un peu plus de temps à chauffer parce qu'elle chauffe pas plus. Il n'y a pas plus d'énergie, non.
Alors j'ai vu une question d'anode aussi dans la cuve.
Oui, il y a une anode, voilà, qui sert à capter le tartre. Pour oui. Qu'ensuite la résistance fasse au maximum son boulot. C'est un peu un filtre. C'est comme
d'accord.
un filtre.
Ça se remplace aussi, ça?
Ça peut se remplacer, oui, bien sûr. De toute façon, toutes les pièces détachées oui. dans un chauffe-eau, vous pouvez commander
à remplacer. C'est assez simple, un chauffe-eau comme ça.
C'est assez simple. Il y a pas de voilà, les chauffe-eau standards ronds, c'est pas sorcier. Si on s'y met un peu, on peut changer toutes les pièces soi-même.
Alors, je vais tenter de vous dire pourquoi passer à autre chose. Si c'est simple, si ça coûte pas trop cher et si ça s'entretient facilement.
Et parce que maintenant on est dans la période des énergies renouvelables. Ouais. Alors il y a beaucoup de produits qui sont sortis récemment avec les énergies renouvelables, notamment les chauffe-eau thermodynamiques et les pompes à chaleur et les chauffe-eau solaires. C'est des chauffe-eau qui coûtent un petit peu plus cher, mais où la différence se fera sur la facture. Vous offrez à peu près 80% d'économie d'énergie avec un chauffe-eau thermodynamique par rapport à un chauffe-eau classique.
80% d'économie d'énergie
avec un chauffe-eau thermodynamique par rapport à un chauffe-eau classique.
Alors, bon, petite explication sur ce qu'est un chauffe-eau thermodynamique. Il y a une pompe à chaleur.
C'est un chauffe-eau avec une pompe à chaleur qui est intégrée dedans. Ouais. Donc, il faut le poser dans une pièce suffisamment grande pour que la pompe à chaleur capte les énergies de la pièce. Soit il faut gainer le chauffe-eau thermodynamique au mur. Relié à dehors pour que ça cale des particules extérieures et ces particules vont se transformer en énergie et cette énergie en chaleur.
D'accord. Alors pompe à chaleur, hein, quand même petite explication, tout le monde ne sait pas, c'est un système qui permet de capter les calories qui sont exactement. Dans l'air, éventuellement dans l'eau, mais là on est dans le chauffage, mais c'est donc les calories qui sont dans l'air et il y a un rapport de 1 à 4 en gros, hein, c'est-à-dire que quand on consomme 1 kilowatt d'électricité, on en récupère 4 par la thermodynamique.
Exactement, exactement. Ouais. C'est ça, vous avez tout résumé.
Voilà. Alors 80% d'énergie, c'est vrai que c'est alléchant, mais on va payer ce type d'appareil plus cher, j'imagine, qu'un ballon d'eau chaude traditionnel.
Bien sûr, le ballon d'eau chaude électrique, en termes de prix, par exemple, on va dire un 150 litres, le particulier va le payer jusqu'à 850 euros en fonction du modèle de pose, du gabarit et de la résistance. Ouais. Un chauffe-eau thermodynamique, on peut facilement aller dans les 2000 euros, 2500 euros.
D'accord. Donc après, c'est simplement une équation à faire. Oui, non, en combien de temps je vais l'amortir?
Exactement.
Il y a les aides, c'est-à-dire...
Il y a les aides.
Voilà, un chauffe-eau électrique basique, il n'est absolument pas subventionné. Un chauffe-eau thermodynamique, dans certains cas, si on est, par exemple, à faible revenu, il va peut-être pas forcément coûter plus cher qu'un cumulus. Hein. Ça, c'est quand même à prendre aussi en compte aujourd'hui. Je pense que là aussi, je relance toujours et je dis renseignez-vous auprès des organismes officiels et notamment en allant chercher un conseiller sur www.fer.fr. On dira pas que je le répète pas. Hein. Si vous ne le faites pas, c'est vraiment que vous le savez, vous ne voulez pas.
On a des questions oui. qui sont arrivées sur Direct Studio, Christian. C'est Jacqueline, par exemple, qui nous dit « J'entends que de l'eau s'écoule régulièrement sous mon chauffe-eau, dans le tuyau PVC en dessous de l'ensemble qui comprend deux boutons rouges et bleus. Est-ce que c'est une fuite? Est-ce que je dois le changer ?»
Ah, ça c'est un grand classique, monsieur Dubos.
Alors effectivement, ça peut être une petite fuite qui peut être liée à la pression du chauffe-eau qui est trop élevée. Dans ces cas-là, il vaut mieux mettre un réducteur de pression. Il y a aussi, il peut y avoir une cette petite fuite qui peut être liée, là malheureusement, à une corrosion trop élevée du chauffe-eau. Alors là, il faut directement appeler les services après-vente des fabricants si le ballon est sous garantie. Mais voilà, ne pas s'affoler si vous voyez un petit filet d'eau couler du groupe de sécurité. Appelez un plombier, voyez si la pression est trop élevée et surtout pensez bien à faire entretien à peu près une fois par an, ouvrir le robinet du groupe de pression et le fermer pour voir si tout fonctionne bien.
Parce que en dessous donc de cette cuve, il y a ce qu'on appelle, vous venez de le dire, le groupe de sécurité. En fait, ce groupe, il a une triple fonction. C'est l'arrivée d'eau, c'est la vidange et c'est l'évacuation de la surpression, c'est ça ?
Exactement, oui. Et il est indispensable pour tout chauffe-eau. Alors généralement, il n'est pas vendu avec le chauffe-eau, c'est une pièce à part, ce sont d'autres fabricants, mais c'est obligatoire. Pour tout chauffe-eau, il faut un groupe de sécurité, parce que justement, pour ne pas entraîner ces surpressions et ces petites fuites.
Voilà. Alors si ça coule en continu, donc là, c'est un problème sérieux, il faut le changer rapidement. Si ça coule de temps en temps, c'est normal.
Ça coule de temps en temps, c'est tout à fait normal. Il faut juste vérifier la pression. Et comme je le répète, surtout ne pas hésiter à mettre un groupe de pression, ça peut aider.
Oui, oui. Et là, vous l'avez dit, il faut de temps en temps, on ne le fait jamais, personne ne le fait.
Mais il faut le faire.
Il faut bouger, il faut ouvrir la vidange et faire fonctionner donc les trois vannes, on va dire, du groupe de sécurité. Une fois par an, il faudrait les bouger parce que après, qu'est-ce qui se passe? Il y a du tartre qui s'accumule dans la cuve. Lorsque la soupape fonctionne, se met en marche automatiquement elle-même parce qu'il y a une surpression. Qu'est-ce qui se passe? Ben, vous avez du tartre qui se glisse dans le clapet et le clapet il se ferme plus.
D'accord.
Donc c'est vraiment.
Alors que si on le fait régulièrement,
eh bien, si on, le fait
on va enlever à chaque fois un peu le tartre qui va s'écouler en quelque sorte. Le tartre, c'est vraiment un fléau, hein. C'est incroyable ça. Hein.
Oui, oui, oui.
Il n'y a rien à faire en fait.
Si, un adoucisseur.
Oui.
Moi je dis toujours, hein, après trouver tous les systèmes du monde, l'adoucisseur, il enlève le calcaire, point barre. Hein. Donc,
Et l'adoucisseur, il faut le mettre à l'arrivée d'eau de la maison.
Ah oui, oui. Alors moi je conseille. Parce que c'est des fois ça donne un petit goût salé un peu désagréable à l'eau et même sur un plan sanitaire, Christian Reca pourrait le confirmer, c'est pas l'idéal.
Oui, parce qu'elle perd une partie de sa minéralité.
Elle perd de sa minéralité et puis sur un plan sanitaire, il faut faire attention à ce que les matériels soient bien entretenus. Donc l'idéal c'est d'avoir un bypass qui vous amène l'eau au robinet. Dans votre lavabo,
donc non traité,
et puis tout le reste, et notamment en amont des appareils qui ont des résistances, eh bien l'idéal, c'est à ce moment-là d'avoir effectivement un adoucisseur.
Ça coûte combien un adoucisseur, Christian ?
Ah ben ça peut être très varié. Beaucoup sont simplement en location. Hein. Mais on va dépasser les 1000 euros, hein, 1200 euros à peu près hein, sur un modèle si on l'achète. Moi j'aimerais qu'on parle des perfectionnants parce que là on a donné l'impression que le chauffe-eau c'était vraiment un truc basique, qu'il n'y avait pas beaucoup de dépenser dedans. Mais il y a des trucs formidables en termes, il y a de l'intelligence artificielle maintenant dans les chauffe-eau. Ça apprend votre comportement. Comment ça marche ça?
Parce que alors
chauffe-eau intelligent, c'est beau ça quand même.
Exactement. Il y a quelques années. On a vu sortir des chauffe-eau plats en France. Ils sont ils sont plats, ils font entre 27 et 30 cm de profondeur. Ça va du 45 litres aux 80 litres. Si vous voulez, c'est des chauffe-eau qui analysent les habitudes de consommation du particulier. Donc, il va voir à quel moment le particulier prend sa douche et va chauffer son eau en fonction des heures à laquelle il aura analysé les habitudes de consommation.
Mais c'est suffisant 80 litres pour une famille ?
Alors, ce chauffe-eau plat, c'est un système un peu différent des cumulus standards. C'est un chauffe-eau, par exemple pour un 80 litres, à l'intérieur du chauffe-eau, vous aurez deux cuves de 40 litres. Et pendant qu'un quelqu'un prend sa douche ou fait la vaisselle,
il chauffe l'eau.
L'autre, donc l'eau se vide par la sortie d'eau chaude, mais se remplit aussi par l'entrée d'eau froide. Donc en fait, on dit qu'un chauffe-eau 80 litres a une capacité réelle de 150 litres.
D'accord.
Donc il y a ça, les habitudes de consommation qui sont analysées par chauffe-eau, c'est pour ça qu'on dit qu'il est intelligent. Il est pratique parce que c'est un gain de place et puis on peut le poser aussi bien en vertical contre le mur qu'en horizontal contre le mur aussi, toujours les sorties côté gauche. Et c'est un chauffe-eau aussi un peu écologique parce que par rapport à un chauffe-eau standard, un cumulus rond, celui-là il fera 12% d'économie d'énergie. sur la facture, ça fait toujours plaisir.
Oui, c'est quand même pas énorme, quoi.
C'est pas énorme, mais c'est déjà ça.
L'intérêt, c'est quand même parce que c'est pas épais.
C'est pas épais, c'est permet... design.
Ouais, c'est design. On peut le mettre dans la salle de bain, ce qui veut dire que on n'a pas, des fois, à attendre, 3 minutes pour que l'eau arrive depuis, le cumulus qui est dans la cave ou la chaudière.
Ouais, c'est ça. Et là, on a plusieurs types de résistances. La blindée thermoplongée, celle de base que j'ai expliqué tout à l'heure, et une résistance aussi protégée qu'on appelle dry dans la société, qui est une résistance protégée. Donc pas de contact avec l'eau, pas besoin de vidanger le ballon pour faire l'entretien. Et par contre, sur ces chauffe-plats, c'est le même temps de chauffe que ça soit protégé ou thermoplongé.
Mais si on revient dans un instant, on a encore des choses à raconter.
On va parler un peu de solaire.
Le solaire, en plein mois d'août, en plein, c'est formidable. Mais est-ce qu'au mois de novembre, c'est aussi bien?
Justement, on va voir. Je vais pas vous le dire tout de suite, non?
Moi, j'aime bien vous piéger comme ça, Christian. Pas notre invité, parce qu'il a l'air sympathique. Mais vous, vous avez tout vu. Hein. Ouais. Allez, on revient dans un instant. Le 32-16, l'appli RMC, Direct Studio. On est là jusqu'à 8h avec Christian PC. À tout de suite.
RMC jusqu'à 8h.
Votre maison.
RMC.
7h-8h.
Votre maison. François Sorel.
Christian PC.
Merci de vous réveiller avec RMC et merci d'être là pour ce week-end des experts. La maison. Avec Christian PC, jusqu'à 8h, on évoque l'eau chauffée.
Hein, l'eau chaude sanitaire.
Voilà, l'eau chaude sanitaire, avec toutes les solutions qui s'offrent à nous pour plus de confort et moins de dépenses. On en parle avec notre invité Antoine Dubost de chez Ariston, qui, vous le savez, est le spécialiste mondial des systèmes de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire. On enchaîne tout de suite avec la question de Franz que nous avons reçue il y a quelques secondes par Direct Studio, tiens. Franz qui nous dit « Je suis tenté par un chauffe-eau solaire, mais je suis près de Valenciennes et je me demande si ce sera rentable compte tenu de l'ensoleillement. »
Alors oui, c'est possible d'installer un chauffe-eau solaire même à Valenciennes, à condition d'avoir un petit chauffe-eau électrique d'appoint. Le chauffe-eau solaire, comment c'est très simple, il y a des panneaux photovoltaïques qu'on appelle des capteurs qui sont sur
thermique,
le toit.
Thermiques,
qui sont sur le toit, qui sont reliés à une canne et qui est relié à un chauffe-eau. Bon, dans ce chauffe-eau, il y a aussi une résistance électrique.
Pour suppléer justement le
moment. Voilà, qui est là en secours en quelque sorte.
Sauf que à Valenciennes, en plein mois de novembre ou de décembre, même la résistance qui est à l'intérieur du chauffe-eau solaire, elle va pas suffire. C'est pour ça qu'on préconise de mettre aussi un petit chauffe-eau électrique standard d'appoint. Après, ça va être rentable pour ce monsieur, même s'il est à Valenciennes.
Oui.
Parce qu'un chauffe-eau solaire, on peut considérer que ça coûte entre 2500 et 5000 euros. Mais
avant les aides.
Avant les aides, bien sûr. Mais ça dure 20 ans. Ça peut durer 20, 25 ans facile si c'est bien entretenu. Donc voilà. Pas de 80% d'économie d'énergie.
Votre avis?
Oui, mon avis, c'est que il y a eu un boom dans les années 80. Après la crise pétrolière, on a installé.
Tout le monde a dit le solaire, c'est génial.
Et puis, il y a eu justement ce type de déconvenue, on va dire. Alors, il y a eu une double de déconvenue.
Alors, la déconvenue,
c'est que, quand il n'y a pas de soleil,
ça chauffe pas.
La résistance elle-même, qui est dans l'appareil, n'est pas souvent suffisante pour assurer le chauffage de l'eau. D'où le conseil judicieux de dire, ayez un petit ballon d'eau chaude, quand même, à côté, en complément de l'appareil. Et puis, il y a eu aussi des problèmes, il faut dire, d'installation, c'est-à-dire que toutes ces nouveautés qui sont apparues dans le domaine des économies d'énergie à partir des années 80, il y a eu beaucoup de fuites en toiture, parce que ça se pose en toiture, évidemment. Donc, on a quand même une problématique générale, d'ailleurs, sur tout ce qui est rénovation énergétique, c'est qu'il y a des transversalités. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez un plombier, il faisait de la plomberie. Vous aviez un couvreur, il faisait de la couverture. Maintenant, on demande à une entreprise d'être en même temps couvreur et plombier, et puis un petit peu électricien aussi, parce qu'il faut faire du branchement. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention, et je le dis toujours aussi, entreprise RGE, spécialisée dans ce domaine. Et puis, il faut dire aussi que la thermodynamique, il y a eu la concurrence du chauffe-eau thermodynamique, qui pendant un moment a fait plonger complètement le chauffe-eau solaire. Aujourd'hui, le chauffe-eau solaire ressort du trou, si j'ose dire, et commence à être à nouveau prisé.
Alors, moi, j'ai une petite question.
Oui.
Sans doute pas très, un peu bête, mais.
Bah, C'est normal.
Venant de moi.
Ah, c'est vous qui l'avez dit, hein.
C'est normal. Mais vous savez que je me fais aussi la voix des auditeurs.
Oui. Donc, et vous pensez qu'ils sont bêtes?
Ne commencez pas à insulter les auditeurs.
Ah non, c'est surtout pas, très pas. Ça serait pas bon.
Non. Comment ça fonctionne, en fait? C'est ce système de panneaux photovoltaïques crée de l'électricité qui chauffe après un ballon, ou est-ce que c'est simplement la chaleur récupérée qui va chauffer l'eau?
On est dans deux technologies différentes. Le chauffe-eau solaire thermique et le panneau photovoltaïque. Alors on peut imaginer de coupler les deux, ça existe aussi. Hein, vous avez donc vos panneaux solaires avec donc un liquide caloporteur qui va chauffer ensuite l'eau, et puis vous avez le panneau photovoltaïque qui lui aujourd'hui, puisque l'autoconsommation est véritablement à l'ordre du jour, on vous incite à autoconsommer l'électricité que vous produisez. Donc l'électricité que vous produisez peut aussi servir donc à la partie résistance et à la partie le ballon annexe qu'on évoquait. Tout ça va être dans les complémentarités. C'est au goût du jour. C'est cette complémentarité des énergies.
Très bien. Et évidemment, plus on est dans le sud, plus ce système d'énergie solaire fonctionne. On est d'accord.
Oui, mais d'un autre côté, quand on est dans le nord, l'endroit où il y a le plus de panneaux photovoltaïques et thermiques, c'est en Suède et en Norvège, parce que évidemment, vous avez le gain du fait qu'il fait froid. Donc, au lieu de vous chauffer avec des énergies coûteuses, eh bien, les énergies renouvelables deviennent d'autant plus intéressantes. Vous voyez, c'est un petit peu un paradoxe.
Oui, c'est ça. D'autres sujets à évoquer avec l'eau chaude?
Je pense que l'ordre de prix, c'est quoi? On a vu qu'un cumulus, une accumulation, ça coûte 3 euros 6 balles.
Mais après, il y a l'installation, j'imagine.
L'installation, ça c'est très simple justement de ce type d'équipement. Mais alors des matériels un peu plus sophistiqués. On a vu les coûts d'un thermodynamique, etc. Mais votre chauffe-eau intelligent là, comment vous l'appelez?
Alors le chauffe-eau plat, il s'appelle le Vélis, cher Ariston. Il va de 464 à 670 € en fonction du type de résistance,
de capacité de litrage.
Non, c'est pas une fortune, et c'est pour ça que dans les appartements ou dans les petits pavillons, c'est hyper demandé, hyper prisé, parce que c'est intelligent, ça coûte pas trop cher.
Les instantanés électriques, c'est quand même pas très c'est très gourmand. Hein.
Alors qu'est-ce que c'est que ça?
Eh ben, vous pouvez avoir un petit chauffe-eau qui chauffe l'eau
à la demande, en
continu,
quelque sorte.
À la demande.
L'eau passe dans une résistance.
Voilà, c'est ça.
Qui va la chauffer instantanément.
Sauf qu'il faut beaucoup de puissance, ce qui veut dire que le chauffe-eau lui-même n'est pas forcé. Alors l'avantage, c'est qu'il ne chauffe que l'eau que vous utilisez. À la différence d'une accumulation qui
tout dépend de la consommation d'eau chaude qu'on a finalement.
Et donc ça peut être intéressant. Le gros inconvénient, c'est qu'il faut amener une ligne extrêmement forte.
Ah oui.
En section, c'est-à-dire plus de 6 carrés comme on dit, c'est-à-dire des fils qui sont extrêmement.
Et ça consomme plus qu'un fer à repasser par exemple.
Bien sûr. Et surtout, il va falloir un abonnement en conséquence. Donc, ça se discute, comme on dit.
Après, un petit ballon d'eau chaude, un tout petit, par exemple, pour la cuisine, par exemple, ça peut avoir du sens pour ne pas attendre que l'eau se réchauffe.
Ça permet d'éviter les longues canalisations, on peut dire aussi.
Oui, bien sûr. On a des petits ballons qui font 15 ou 30 litres qu'on peut mettre au-dessus d'un évier. Et ça sert pour faire la vaisselle, et c'est destiné que à ça. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir le chauffe-eau à l'autre bout de l'appartement ou de la maison.
Voilà, presque le lave-main, quoi.
Ouais, c'est
parfait. Ben, écoutez, merci beaucoup. Merci à notre invité, Antoine Dubos de chez Ariston. On repart avec les questions, Christian.
Ben oui, allons-y.
On y va. Odile est avec nous au 32-16. Bonjour, Odile.
Oui, bonjour. Je suis contente de vous avoir.
Bonjour, Odile.
Pareillement, Odile. Bienvenue sur RMC. On vous écoute.
Merci. Alors, j'ai une maison du début du siècle. On a voulu la rénover en 2011.
Du siècle dernier.
Oui.
Pas de ce siècle-là. Pas de ce siècle-là.
Non, très ancienne. Et rénover à l'intérieur, ça veut dire qu'on l'a stabilisé, mais il y a un perron. Et le perron, petit à petit, on s'aperçoit qu'il y a des problèmes. C'est-à-dire qu'on a des fissures horizontales autour de la porte d'entrée et verticales sur les côtés, dans tout ce qui relie la maison et le perron. Et une balustre, une seule balustre qui se fissure aussi.
Bon, vous me dites, vous l'avez stabilisée la maison, pourquoi? Elle se fendait?
J'ai été sur vos conseils d'il y a longtemps, j'avais entendu qu'on a tout enlevé à l'intérieur et on a fait des piliers.
Ah d'accord.
Des piliers qui ont stabilisé, on a fait une chape de béton pour le premier étage, pour le rez-de-chaussée. En fait, c'était en écoutant vos émotions que j'ai pu avoir cette idée-là. Et donc, le perron n'a pas été touché. Mais moi, je pense que c'est quand même lié le fait qu'on ait des fissures après. Enfin, depuis 2011, on ne s'en sort pas bien.
Ah bah, c'est ça, si
on découvre des choses.
C'est simple. Vous aviez une maison avec son perron qui bougeait. Parce que toutes les maisons bougent un peu. Si le perron est solidaire de la maison, ou l'était, parce que d'après ce que j'ai compris, il est en train de partir.
Petit à petit, on découvre,
De partir en vacances, quoi, le perron. Il est... Donc votre maison, elle bouge plus, ou elle ne bouge plus de la même façon que le perron. Donc vous avez fatalement une fissuration qui se produit entre les deux. Malheureusement, moi, je pense que, en espérant, parce que d'après ce que vous me dites, la maison, elle ne bouge pas, elle ne se fissure pas, ça a été la bonne solution.
Non.
Bon.
Non.
Donc, c'est le principal, quand même. Il vaut mieux ça plutôt que l'inverse, hein. Parce que, bon, moi, je pense que vous n'avez pas beaucoup d'autres solutions que de démonter votre perron. De démonter votre perron, de faire une semelle, de béton, de faire donc une fondation. Désolidariser de votre la maison et que vous remontiez votre perron, ce qui fait que du coup il va plus bouger, parce que là pour ce que j'imagine, c'est que les quelques mouvements que faisait la maison autrefois, le perron il suivait, là le perron il est tout seul, donc si ça bouge un peu et donc lui il n'a pas été stabilisé par de la même façon que le reste, je pense que vous n'avez pas beaucoup d'autres solutions. Vous m'avez envoyé les photos, effectivement, là, je les ai sous les yeux. C'est manifeste. Je pense qu'on est dans cette solution. Alors, de toute façon, faites en sorte qu'il y ait quand même plusieurs millimètres entre la maison et votre, voire un centimètre. Bon, et puis évidemment, vous pouvez remplir ça de. Alors déjà, je pense que j'ai cru voir dans votre mail que vous m'aviez envoyé, donc vous y avez mis du mortier et du silicone.
Ah non, ça date du début du siècle aussi.
Oui.
Et lorsque j'ai fait faire l'analyse de sol, on m'a dit il se pourrait que ce soit un défaut de fondation du perron. Mais enfin, depuis tant.
Non, mais ça revient à ce que je vous dis. C'est-à-dire que, effectivement, maintenant, vous avez des fondations extrêmement rigides sur votre maison et vous avez des fondations flottantes, si j'ose dire, sur votre perron. Donc, il faut que vous refassiez les fondations de votre perron. Je ne pense pas que vous ayez d'autres solutions. Alors, ceci étant, votre rénovation, elle a eu lieu en 2011. J'imagine et j'espère que vous avez pris une assurance dommage ouvrage.
Non, c'était une rénovation intérieure.
Même intérieure. Attendez, intérieure avec des 8 piliers, vous appelez ça de l'intérieur, c'est de la structure. Bon, c'est pas grave. Sinon, je vous aurais dit, vous pouvez toujours tenter le coup d'informer votre assureur au titre de la décennale. Mais d'un autre côté, ça m'étonnerait que ça marche. Hein, demandez toujours la décennale à l'entreprise qui a
beaucoup appris, à force de vous écouter. Maintenant, je ne ferai plus les mêmes erreurs, c'est sûr.
Ah bah c'est bien, merci. Là, c'est une satisfaction morale.
Oui, on apprend beaucoup. Hein.
Merci Odile, en tout cas, pour votre appel. Merci beaucoup. À très bientôt.
Merci infiniment.
Christian, pour terminer...
Vous avez entendu, là?
Non, je n'ai pas entendu.
Ah, vous n'avez pas entendu.
Ça vous fait plaisir.
Ah bah oui, hein, bah écoutez.
Quand on vous caresse la glotte.
Mais ça doit vous faire
comme
plaisir.
Ça,
ça doit vous faire plaisir à vous aussi.
Mais bien
vous y êtes
sûr.
Pas beaucoup.
Mais vous savez que, évidemment, je suis très fier de tout ça. Mon cher Christian, on termine avec votre coup de cœur de ce samedi matin.
Oui, coup de cœur pour le bilan des subventions de l'ANA, l'Agence nationale pour l'habitat, en 2019. Donc ce rapport qui a été publié il y a quelques semaines fait état d'une distribution, tenez-vous bien, de près de 1 milliard d'euros en aide à la rénovation et à l'aménagement de la maison. 970 200 euros exactement pour la rénovation de 155 000 logements. C'est quand même pas mal. C'est en forte augmentation par rapport à 2018 et on sait que 2020, ça va être encore majoré. Alors, les deux priorités de l'agence, ça a été la lutte contre l'habitat indigne, et la lutte contre la précarité énergétique. Ce sont deux points qui vont être effectivement pointés, ciblés pour l'année 2020. Alors on note aussi une nette augmentation des rénovations globales, ce qui est, je pense, une excellente chose. On voit, sauf si on oublie le perron évidemment, mais à part ça, notre auditrice Odile était très satisfaite de sa rénovation globale. C'est en rénovant globalement qu'on obtient les meilleurs résultats en confort, mais aussi en économie d'énergie. On peut arriver à pratiquement aujourd'hui des maisons passives, voire des maisons à énergie positive. On va être dans l'ère où on va pouvoir faire des rénovations et pas seulement des constructions. On va aboutir à de très faibles consommations, voire avec justement, on en parlait, les panneaux photovoltaïques, avec aussi donc des maisons qui vont produire plus d'énergie qu'elles n'en consomment. Ça vaut vraiment le coup. Et bravo à l'ANA pour son action en 2019. On surveillera 2020. Il ne faut pas rester sur...
Qu'est-ce qui va se passer en 2020
ça va être difficile.
Ça va être un peu compliqué. Ouais. Enfin, croisons les doigts, espérons que...
Faites confiance aux entreprises.
Ne soyons pas pessimistes, bien sûr.
Surtout des vrais pros.
Christian Pesset,
oui.
C'est terminé, notre rendez-vous maison. Oui. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine.
Bien sûr.
Vous le savez, on est là tout l'été avec Christian pour votre rendez-vous de maison comme pour tout le week-end des experts. Et d'ailleurs, dans un instant...